Interview.
2 jours.
Nous sommes dans un jardin, espace vert, au milieu de la ville de Die, et nous avons Françoise Mar, bonjour.
Bonjour.
Et Manu Benoît, bonjour.
Bonjour.
Toutes les deux, vous êtes ici pour nous parler du collectif Matière Vivante, donc une proposition opérée par Les Chouettes. Et pour ça, Françoise Mar, dont vous en êtes membre, vous pouvez nous présenter rapidement ce qui est proposé.
L'idée, c'est l'idée de l'association Les Chouettes Solidarité Femmes du Diois, c'est de s'intéresser à ces comportements d'un autre âge, mais qui perdurent, qu'on peut dire patriarcaux ou sexistes, dans le milieu très agréable et très sympathique, a priori, de la danse. Donc on a la chance d'avoir plein de danses, et notamment de danses folk, sur notre, dans le Diois, le Haut Diois, avec des gens qui viennent de loin, du reste, pour ça. Et... On a participé à une formation commune, Manu et moi, sur les violences. Et donc j'ai été vraiment émerveillée en fait par la manière dont des jeunes femmes se sont emparées de la question d'une façon constructive.
Manu, vous avez eu cette idée lors du bal folk, du gros bal folk au bal du Vercors en 2019. Alors pourquoi cette proposition ?
Donc on était plusieurs personnes à s'être rassemblées autour de cette question-là, en partant vraiment juste de nos vécus et du constat en fait, qu'on fait que depuis des années on vit du sexisme dans le bal et qu'il y a un enjeu en fait, de consentement dans la danse. Même si c'est très codé, en fait, justement, il y a plein de tabous, il y a plein de traditions qui perdurent. Il y avait un peu une urgence à se dire, mais en fait, faut aussi qu'on parle de ça dans le milieu du bal. Et donc le collectif, enfin les prémices du collectif sont nées en 2019 au Gros Bal du Vercors. On était une poignée de bénévoles en fait à poser cette question-là, on avait envie d'en parler. À partir de ça, de cette réunion-là, il y a eu 3 initiatives pour le Bal du Vercors. Il y a des personnes qui ont créé des affiches graphiques pour afficher dans le festival. Il y a des personnes qui ont formé les personnes de l'infirmerie à être en vigilance et à accueillir des témoignages. Et il y avait un autre groupe qui était « On va animer un temps sur la question de consentement dans la danse ». Et donc moi, j'étais dans ce groupe-là avec d'autres personnes et on discutait de comment on va animer ce temps. Il se trouve que donc Anne, une personne qui fait aussi partie du collectif Matière Vivante, et moi-même, on pratiquait déjà le théâtre de l'opprimé. Et il y a une personne qui a émis l'idée de créer un théâtre forum sur cette question-là. On s'est un peu posé la question et on s'est dit « Allez, oui, ce serait super ». Donc c'était toute une histoire, toute une aventure parce qu'on a créé ça en 3 jours avec des personnes pas formées, qui n'étaient pas comédiennes non plus, sur le moment du festival. Mais ça a quand même donné lieu à un spectacle de théâtre forum à la fin. Alors un peu de bric et de broc, un peu rocambolesque comme histoire. Mais en fait ça a eu lieu, ça a existé. C'était une initiative spontanée et éphémère quoi. Et ça aurait pu s'arrêter là, mais en fait ça a éveillé beaucoup de choses dans les esprits de tout le monde, les nôtres et les personnes du public en fait. Et donc quelques mois plus tard, et Anne de son côté et moi de mon côté, on nous a contactés pour intervenir dans des festivals. Alors c'était assez drôle parce que c'était bon, en fait on aimerait programmer votre spectacle de théâtre forum. Et nous on était là, mais il n'y a pas de « on », il n'y a pas de spectacle, on n'existe pas, rien n'est fait en fait. Et donc avec Anne on s'est contactés à ce moment-là pour se dire ben, en fait il y a vraiment quelque chose à faire, il y a une demande. Nous, on a des compétences, on a de l'envie. Il y a un enjeu crucial à faire ça dans le milieu du bal parce que c'est aussi un espace qui nous fait du bien et qu'on a envie de pouvoir transformer. Et du coup, à l'issue de ça, on s'est dit qu'on allait créer une structure qui permette de porter cet enjeu dans les festivals.
Au Chouette, on aime bien nommer, alors pas nommer les auteurs, mais nommer les violences. Tu vois, on distingue, Manu, les violences psychologiques enfin, de façon très classique, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est dans notre quotidien. Quel genre de violence s'exerce dans les bals ?
Et bien justement, en fait, on a toute la panoplie du sexisme qui est présente, malheureusement, parce qu'en fait, ça va de le sexisme ordinaire, de « je suis au bar et je me fais draguer », entre guillemets, très lourdement, en passant par quelque chose de très spécifique à la danse, dans le rapport au corps, de, par exemple, une étreinte beaucoup trop forte pendant une danse, ou des gestes qui ne sont pas agréables, une main qui va être basse, par exemple, et pas placée au bon endroit, ou voir des agressions sexuelles pendant la danse ou juste dans la vie collective des festivals, en allant, bien sûr, comme partout ailleurs, jusqu'au viol ou aux violences conjugales répétées qui se retrouvent comme partout ailleurs, en fait.
Ce qui m'interroge, c'est cette organisation de cette rencontre pendant le grand bal folk du Vercors en 2019. Comment s'est opérée cette assemblée de personnes? Comment avez-vous communiqué ou trouvé ce point d'attache entre toutes pour en parler?
Pendant le gros bal, c'est qu'on avait été plusieurs à faire remonter à l'organisation qu'il y avait une envie de parler de ça et que ce soit visible dans le festival. Du coup, les personnes de l'organisation, qui sont des personnes quand même très ouvertes et qui ont est disponible en fait, et où il y a vraiment de l'espace pour qu'on mette des choses en place, on fait un appel. Donc là, ça restait dans le cercle des bénévoles à ce moment-là. Et donc, on fait un appel à une réunion en disant qui a envie de parler de ça, vous pouvez vous rassembler à tel endroit. Et après, on s'est organisé, quoi.
Depuis 2019, d'autres bals ont été organisés. Est-ce qu'il y a une évolution de matière vivante dans ce domaine ?
Oui, alors tout à fait. Du coup, le gros bal 2019 en août, c'était vraiment les prémices. C'était même pas vraiment avec les personnes qui ont formé le collectif ensuite. Nous, on s'est constitué en collectif pendant l'année suivante. Donc finalement, les festivals qui nous avaient appelés ont été annulés parce que c'était 2020, donc évidemment, Covid, etc. Donc nous, on s'est vraiment posé, on a fait les choses tranquillement, on a constitué un noyau dur en fait de personnes motivées pour faire ça. Et en fait, ce qu'on a eu envie de faire pour commencer, on savait qu'on voulait utiliser le théâtre de l'opprimé. D'ailleurs, je pourrais en développer si ça vous intéresse. Et donc on s'est dit, la première chose à faire, c'est d'organiser une formation au théâtre de l'opprimé pour avoir des personnes formées qui peut-être seraient intéressées aussi pour rejoindre le collectif en fait, et créer un spectacle de théâtre forum. Donc ça a pris ce temps-là. Et là, donc l'année dernière, on est déjà intervenu dans des festivals. Et cet été, on était vraiment bien en place. On est intervenu sur 7 festivals cet été.
Principalement dans la Drôme ou au-delà?
Je dirais Rhône-Alpes. Plutôt Rhône-Alpes, voilà. Pour l'instant, notre réseau, il est quand même plutôt là.
Tu peux dire que c'est la prévention, en quelque sorte?
Je sais pas si... Alors, forcément, on fait de la prévention, parce qu'on parle des violences, on les nomme, mais il y a aussi tout un côté qu'on pourrait presque appeler autodéfense, parce qu'en fait, on va apprendre à s'en défendre et à s'y préparer, en fait. C'est surtout ça, pour pouvoir s'en défendre. Et nous, on amène aussi toute une vision de... En fait, on fait le lien avec le neurotrauma. Et du coup, on parle de l'effet de sidération. On fait des apports de neurosciences, en fait, pour aussi expliquer que parfois, c'est juste pas possible de dire non et qu'il faut pas s'en vouloir et qu'on peut pas juste être dans l'autodéfense individuelle, en fait. On essaie de remettre une responsabilité collective à ce niveau-là et de vraiment tisser le lien entre le consentement dans la danse et les violences sexistes et sexuelles en général.
Donc, cette année, il y a eu 7 rendez-vous avec des bals. Est-ce que ces organisations ont pris conscience de ce problème et donc ont pu ouvrir un peu plus cet espace, cette possibilité d'échange?
Alors justement, c'est une très bonne question parce que nous, on voit bien la différence entre les différentes organisations de festivals. Il y a des festivals où on est attendu, accueilli, où il y a une vraie prise de conscience de « il faut qu'il y ait des personnes comme nous qui soient sur place ». Parce que c'est important d'en parler, parce que ça crée un climat tout autre, en fait, sur le festival. Quand il y a des affiches, quand il y a des ateliers qui sont proposés, ça crée vraiment quelque chose. Et il y a des organisations où on sent qu'il y a des désaccords dans l'équipe, que tout le monde n'est pas OK pour qu'on vienne, qu'il faut se battre pour venir, que, voilà, au sein des organisations, il y a aussi des problèmes parfois de cet ordre-là. Donc, on sent vraiment, nous, la différence.
Françoise, comment as-tu découvert ce problème des bals folk ?
Pas une danseuse émérite, loin de là. Donc en fait, j'ai rencontré Manu autour d'une table au collectif féministe contre le viol, qui est une association très importante en France, à Paris, lors d'une formation.
Manu Benoît, vous êtes comédienne, danseuse et animatrice, formatrice dans certains milieux. Et vous êtes aussi militante de l'éducation populaire. Donc tous ces facteurs vous permettent aussi de créer cette association, ce collectif Matière Vivante. Comment arrivez-vous justement à concilier toutes ces capacités ?
Shiva, comme toutes les femmes.
Ce qui m'étonne par rapport au bal folk, c'est que je suis loin de penser qu'il y a cette problématique.
Tout le monde aussi.
C'est ça l'enjeu.
Ah d'accord.
Dis-le.
Mais je le dis, hein, moi j'ai assisté à des bals folk où tout est joyeux, tout danse, tout tourne en rond, et je n'avais pas remarqué ce problème. La seule chose que je voyais, c'est une intransigeance sur les personnes qui ne savaient pas danser dans le bal et qui étaient évacuées, plus ou moins poliment, de la salle.
Ben justement, en fait, ça c'est chouette que tu le soulèves, parce qu'en fait c'est exactement notre enjeu. Nous, ce qui nous différencie en fait, ce qui différencie notre travail de tout le travail des autres personnes qui agissent en milieu festif plus ordinaire, j'ai envie de dire, c'est que dans le bal, on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes problèmes et il n'y a pas les mêmes stratégies des agresseurs non plus. Par exemple, l'alcool, on n'est presque pas confronté à ce problème-là.
Dans les bals folk.
Dans les bals folk. Il y a très peu d'alcool. Voilà, par exemple. Par contre, on va avoir des arguments d'agresseurs ou des stratégies qui sont différentes aussi d'ailleurs. Ça peut être plus sournois, ça peut être... par exemple, il y a l'optique du développement personnel qui peut être très présente dans les milieux folk. Et en fait, peu importe ce qu'on pense du développement personnel, ce que ça peut créer, c'est que ça va remettre à la responsabilité individuelle une forme de... Tu as mérité, par exemple... pardon, je m'exprime très mal là sur cette question-là, je marche un peu sur des œufs, mais... on vit ce qu'on a à vivre, quelque part on a mérité, ou alors c'est de notre responsabilité de nous défendre et de dire non, etc. Et nous, en fait, voilà, on a aussi envie d'en parler, de se dire, y a aussi des personnes qui savent bien parler, qui sont dans des milieux non violents, par exemple, et en fait, qui sont des agresseurs et qui ont des stratégies autres et moins visibles, en fait.
Parce qu'effectivement, Yves, on retrouve des agresseurs dans tous les milieux, même les milieux féministes, des pédocriminels, même dans les milieux qui luttent contre la pédocriminalité. C'est curieux, mais c'est comme ça.
C'est un vaste sujet qui mérite multiples émissions, hein. On pourra toujours le répéter. Je reviens donc sur toi, sur vous, Manu Benoît. Je vous citais comme artiste de spectacle vivant et vous proposez donc, vous avez travaillé avec le Théâtre de l'Opprimé. Est-ce qu'on peut peut-être aussi présenter ce qu'est ce théâtre ?
Oui, alors le Théâtre de l'Opprimé, c'est une méthode qui a été inventée entre autres par un monsieur qui s'appelle Augusto Boal, en Amérique du Sud dans les années 60-70, et c'était dans l'enjeu de lutter contre la dictature sur place, en fait. Donc c'est vraiment un outil qui est là pour se préparer et s'entraîner à se libérer des oppressions. C'est pas un outil artistique, c'est vraiment un outil politique. Et ce qui est très intéressant dans le Théâtre de l'Opprimé, c'est qu'il y a plusieurs outils en fait à l'intérieur. C'est comme une boîte à outils avec plusieurs manières d'agir à l'intérieur. La plus connue, c'est le Théâtre Forum, mais il y a aussi le Théâtre Image, le Théâtre Journal, le Théâtre Législatif, etc. Et le principe est toujours le même, c'est on va pointer du doigt une oppression, la jouer pour essayer de trouver, de collectivement en fait, faire de l'intelligence collective pour trouver des billes pour se sortir de cette situation-là. Donc là, on est vraiment du côté des opprimés, c'est très clair, c'est assez binaire dans le Théâtre de l'Opprimé, on sait qui est l'oppresseur, qui est l'opprimé, et nous, on prend le parti de l'opprimé. Et donc dans le Théâtre Forum, par exemple, il y a des comédiens, comédiennes qui ont déjà préparé une scène, qui la jouent, donc c'est une scène de la vie quotidienne, a priori, où il y a une oppression dedans, qui n'est pas, donc c'est pas satisfaisant. Et ensuite, les personnes du public vont pouvoir aller sur scène remplacer un personnage, pour essayer, donc un personnage opprimé ou témoin, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là, en fait. Donc on va pouvoir, en tant que public, on peut tester soit des choses qu'on n'oserait jamais faire dans la vie, ça permet de s'entraîner et d'ouvrir les possibles, ou soit justement, un jour j'ai fait ça, ça a marché, et du coup j'ai envie aussi de le retester ou de le montrer pour que d'autres personnes puissent s'en saisir. Et en fait, on va faire plusieurs fois la même scène, ce qui fait qu'il y a un panel vraiment de différentes stratégies, en fait, ça peut correspondre à plein de personnes différentes. Et en fait, les comédiens et comédiennes improvisent avec la proposition de la personne du public, ce qui permet de le sentir quand même encore en soi, quoi, mais dans un cadre très sécurisé, puisque c'est du théâtre.
Alors, il y a ces ateliers, ce qui amène à apprendre des techniques pour pouvoir se dépêtrer de situations pénibles. Et comment s'opère-t-elle et qu'est-ce qui est proposé d'ailleurs ?
Des exemples de choses qui sont proposées en spectacle ?
Et qui permettent ensuite d'acquérir un système d'autodéfense plus ou moins violent, j'imagine. Ça peut être très poli, comme ça peut être un peu plus radical.
Oui, moi, c'est ça que je trouve merveilleux avec le théâtre de l'opprimé, c'est qu'en fait, on peut proposer vraiment beaucoup de choses différentes, ce qui fait que dans le public, on va pouvoir se reconnaître dans différents modèles en fait, qu'on voit sur scène. Donc, ça peut aller de... Donc, nous, nos scènes, c'est sur le consentement dans la danse, donc c'est avec aussi des rapports de toucher physique. Donc, ça peut aller de la verbalisation, par exemple, de dire « Excuse-moi, est-ce que tu peux mettre un peu plus de distance, s'il te plaît ?» jusqu'à la clé de bras ou donc l'autodéfense physique. Après, il y a aussi des stratégies d'excuses, par exemple, d'inventer un prétexte. En fait, c'est toujours OK d'inventer un prétexte pour se sortir d'une situation problématique. Donc, « Ah bah, en fait, j'ai envie de faire pipi » ou « Aïe, je viens de me faire marcher dessus et il faut que j'arrête. » En fait, le but, c'est aussi juste d'arrêter la situation d'oppression dans le moment T. Il y a aussi beaucoup de stratégies qui sont de faire appel à un tiers ou alors d'agir en tant que tiers. Parce que finalement, quand on est nous-mêmes au sein d'une agression ou d'une situation d'oppression, il y a plein de moments où ce n'est pas nous qui sommes la mieux placée en fait, pour réagir parce qu'on peut être en état de sidération ou alors on est en tout cas dans une situation inconfortable qui déjà nous prend beaucoup d'énergie. Alors que quand on est à l'extérieur, on peut réussir à identifier parfois des situations et intervenir. Alors, il faut le faire avec du soin. L'idéal, c'est quand même de réussir à avoir une communication peut-être visuelle avec, avec la personne pour essayer de s'assurer en fait qu'elle a besoin d'une intervention. Et ça, tout ça, on le travaille en spectacle parce qu'on analyse chaque proposition. Mais du coup, il y a cette possibilité-là d'intervenir en tant que personne extérieure aussi.
Ça me rappelle un peu, moi j'ai participé à du théâtre forum pour des agressions dans la rue. Mmh. On retrouve quelques éléments, si on est voisin dans un bus ou à un arrêt bus, qu'est-ce qu'on on avait testé, comment on pouvait intervenir.
Alors il y a cette animation d'atelier sur le consentement dans la danse et qui est proposée en mixité ou non mixité, ce qui sous-entend que ce que propose Matière Vivante et s'adresse à toutes, à tous.
Oui, c'est ça. Alors on a des propositions différenciées parce qu'on ne va pas travailler les mêmes choses en fonction de qui on a comme public. Pour nous, c'est très important de travailler en mixité parce que on fait société en mixité, en fait. Et du coup, c'est important que tout le monde puisse bouger sur ces questions-là. Donc, il y a même des stages qu'on propose qui durent 6 jours, où là, pour nous, ça nous tient à cœur que ce soit en mixité. D'ailleurs, le collectif Matière Vivante est un collectif mixte. Le président est un homme. Et oui. Bon, les pédagogues sont des femmes. mais ça nous semble aussi important de proposer des choses qui sont... en non-mixité, ou en tout cas pour les personnes donc, qui ont été élevées comme des femmes, parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes réflexes sociaux, juste on a été construit différemment, on n'a pas les mêmes billes, on n'a pas besoin des mêmes choses. Donc quand on est en non-mixité, ou en mixité choisie, en tout cas, on va plutôt faire de l'empuissancement, de nommer les violences, de pouvoir se déculpabiliser, de remettre la responsabilité aux bonnes personnes, et de s'empouvoirer. Alors c'est un mot qui n'est pas très joli en français,
si,
mais...
Si, moi, je le trouve beau.
De s'empuissancer, de s'empouvoirer. Alors que quand il y a un public avec des hommes, on fait aussi beaucoup juste de pédagogie de base, de donner des chiffres, d'essayer de déclencher des prises de conscience. Les enjeux ne sont pas les mêmes.
Qu'est-ce qui amène les hommes justement à ces ateliers pour quels soucis?
Je pense qu'il y a l'envie d'en savoir plus, de comprendre mieux, parce que là, ça y est, on en parle. En fait, moi, pendant longtemps, j'ai eu l'impression que juste MeToo n'était pas arrivé dans le bal, en fait. Et je trouvais ça dingue. Et moi, je pense que c'est pour ça que c'est notre enjeu principal de juste enlever les œillères. Ça m'a vraiment fait cet effet-là de... Dans le bal, on n'en a pas besoin. Dans le bal, c'est safe, il n'y a pas besoin de cette prise de conscience-là. Or, si, il y en a cruellement besoin, et c'est pour ça qu'elle arrive si tard. Et donc, moi, je pense que les hommes, en fait, tout le monde aujourd'hui se questionne quand même sur ces enjeux de consentement et de sexisme et qu'on en parle. Et je pense que c'est ça qu'ils viennent chercher, en fait, de la pédagogie.
Vous n'étiez pas en retard du tout, puisque, en fait, c'est l'an dernier seulement que le milieu du sport a beaucoup bougé. Et le milieu du journalisme sportif, il y a plein de milieux, le théâtre, il y a plein de milieux qui... Il y a des villes qui vont faire leur MeToo. Hein. Enfin, il reste encore beaucoup de MeToo. Hein. Vous n'êtes pas en retard.
Et puis les partis politiques en ce moment.
Oui, depuis un moment déjà.
Mais ça, c'est sûr que moi, j'ai l'impression que tous les 4 mois, il y a un nouveau MeToo. Il y a le MeToo dans la danse, le MeToo théâtre. Enfin, En fait, juste, les agresseurs sont partout, dans tous les milieux. Et je trouve ça fou qu'on continue de se dire « Oh, mais dans ce milieu-là aussi !»
Manu, tu es avec une caisse en bois dans laquelle sont enfermés des accessoires. Alors, est-ce que tu peux nous les présenter ?
Alors, c'est notre boîte d'écoute. Donc, c'est une boîte en bois d'où sortent des combinés téléphoniques qu'on a voulu jolis. Donc, ils sont violets, verts, roses. Et alors, ça fait partie de notre projet qui s'appelle Carlophonique. Carlophonique, c'est l'idée de pouvoir aller en festival avec une caravane qui soit un espace d'écoute, de soins, de ressources, donc avec de la documentation sur place, mais aussi des créneaux de permanence où les personnes pourraient venir se confier sur des éventuelles agressions ou juste aussi des permanences d'information pour venir discuter. C'est aussi un moment de pédagogie, par exemple, à ce moment-là. Et on a aussi envie que ce soit un studio d'enregistrement pour pouvoir enregistrer des témoignages de violences vécues dans les balles ou alors d'anecdotes de consentement joyeux. On a aussi envie de partager en fait cette parole-là. Et l'idée, c'est donc d'enregistrer, de faire du montage dans la foulée, donc dans la journée ou le lendemain ou dans la nuit, un montage assez grossier, juste de mettre à bout des témoignages et les rendre disponibles dès le lendemain. Et donc, dans ces boîtes, il y a des témoignages qui tournent en continu et les gens peuvent venir écouter des témoignages. L'idée de ça, c'est toujours le même. Hein, pour nous, c'est cet enjeu-là de dire oui dans le Balfolk aussi. Et en fait, avec ces boîtes-là, de le faire du jour sur le lendemain, ça permet de se dire « Ah oui, en fait, c'est pas les autres, c'est là maintenant. En fait, j'étais sur le même parquet. »
Comme vous le dites aussi, ou du moins écrit, la tâche est grande et c'est pour ça que vous cherchez toujours aussi à proposer des échanges lors de ces événements. Et pour ça, il y a une possibilité de vous écrire pour faire la demande.
Oui, donc on est sur Internet. Il y a notre adresse mail, c'est contact@collectifmatierevivante.fr. Notre site Internet aussi, collectifmatierevivante.fr. On est aussi sur Facebook et Instagram. Et donc c'est Matière Vivante au pluriel.
On peut parler aussi des associations qui travaillent avec vous et on peut en présenter quelques-unes. Et quels sont les liens et quelles sont les applications qui s'opèrent entre elles ?
Alors nous, malheureusement, on est un collectif très éparpillé en France. Donc on agit principalement en Rhône-Alpes, parce que c'est là qu'on s'est créé, qu'on est plusieurs à habiter dans le coin, et qu'on a un lien fort avec du coup le Gros Bal du Vercors et les associations qui ont monté ce festival-là. Mais pour l'instant, on n'a pas d'ancrage vraiment local. Donc pour ça, je pense que Françoise aura beaucoup plus à dire sur des liens entre les associations qui fonctionnent ensemble sur ces questions-là dans le Diois.
Je crois qu'il existe d'autres associations que ton collectif, non ? J'ai entendu parler d'autres mouvements
oui,
un peu ailleurs.
Ouais. On n'est pas en lien direct, mais il y a un site qui s'appelle Créactiviste, qui est super intéressant avec des témoignages. C'est aussi une personne qui fait beaucoup de pédagogie de la danse, et donc il y a aussi des manières d'expliquer les danses et de parler de consentement. Parce que, comme nous aussi, on pense qu'il y a un cruel besoin de parler de ça dès le départ. En fait, pour moi, il y a une grande responsabilité qui revient aussi aux profs de danse, aux personnes qui organisent les bals et les festivals, parce qu'on peut mettre plein de choses en place, et aux personnes qui enseignent la danse, parce que finalement, si dès le départ, on nous dit, en fait, pour toucher quelqu'un, il faut demander, qu'il faut du confort, que l'idée, c'est qu'il y a un dialogue, etc., ça change tout pour la suite. Et il y a une autre initiative qui s'appelle Parquet Glissant, qui a été là, qui est un peu en pause, mais on peut trouver des choses sur Internet, et qui recueille des témoignages justement de violences sexistes et sexuelles qui ont été vécues pendant des bals.
Audrey Semion est là et Audrey a participé aussi à organiser cette rencontre, et peut-être qu'elle veut nous dire un peu, parce que toi t'es souvent dans les bals, Audrey. Mm-hmm. Tu as une expérience aussi qui t'a amené à participer à cette organisation ce soir.
Tout à fait. En fait, l'idée de se réunir ce soir pour notre réunion de 18h à 20h, bon, c'est pas en direct, j'imagine, mais bon, comme ça, vous aurez l'information. Ce que je veux dire, oui, ça a été proposé à l'AG des Chouettes cet été. de faire dans les projets de ce genre de choses. Et quand Françoise a dit « Est-ce que s'il y a des danseurs, des danseuses qui seraient intéressées ?» Moi, je fais « Mais bien sûr, je suis là !» Et j'ai eu l'occasion de rencontrer le collectif et Manou et d'autres de ses collègues pendant des bals. Et j'ai trouvé leur travail formidable. Et elles-mêmes, en effet, le jour où j'ai fait l'atelier sur le consentement dans le bal pendant les nuits du folk, il m'est arrivé une expérience assez désagréable et j'ai réussi à couper le court. Alors jusque-là, ça ne m'était pas arrivé. Et quand j'ai entendu des témoignages pendant cet atelier, j'étais vraiment effarée, en fait. En me disant, mais non. Parce que moi, je ne suis pas le genre de personne, en général, qui se fait trop embêter. Voilà. Et bien, pendant ce bal-là, ce soir même, il y a un cavalier qui s'est très mal comporté avec moi. Et j'ai vraiment eu la force de lui dire, et de lui résister, et de lui dire stop. Et merci.
Ça continue l'étonnement par rapport à ces bals folk. Je n'ai rien perçu de ça. Et vous-même, vous citiez cette personne qui dit « mais non ». Mais tout ça s'opère avec une grande discrétion. Et comment se signaler justement en cas de difficulté ? Parce que apparemment, personne ne voit rien.
Alors ça relève de la responsabilité des personnes qui organisent les festivals et les bals de créer un espace ou une manière de pouvoir alerter. Nous, quand on est là, du coup, c'est ce qu'on propose. Donc on tient des permanences et les personnes peuvent venir nous voir et après on est en alerte. Et parfois, en fait, il y a du suivi aussi. Hein. Ça nous est arrivé régulièrement, en fait, ça nous arrive que des personnes viennent nous voir, nous confier un témoignage et qu'il y ait des suites d'accompagner la personne victime à faire son chemin, en fait. Et donc parfois, ça veut dire contacter les organisateurs, faire le lien. Enfin, il y a plein de choses possibles.
Ce qui sous-entend donc que dans ces organisations sont prévus ou sont à prévoir des espaces de repli en quelque sorte pour se protéger ou attendre un peu que les choses se passent.
Ben, moi, je trouve que ce serait formidable qu'il y ait ça dans chaque événement. On n'en est pas encore là. Mais là, quand je vois qu'on est intervenu sur 7 festivals dans la saison de l'été, je me dis que c'est en bonne voie. Mais pour moi, ce serait indispensable, effectivement. Ouais. En fait, il y a toujours ce truc de « on ne veut pas voir, donc on ne met rien en place ». Alors que nous, notre optique, c'est en fait « les violences sont partout ». Ici aussi, regardons la chose en face pour pouvoir agir contre. Si on se ferme les yeux, on ne pourra jamais changer les choses, quoi.
Sans connaître trop, est-ce qu'on a une idée de cas de situation dans ces bals ? Est-ce qu'il y a une moyenne ? Est-ce que c'est systématique ? Ou alors, des fois, ça peut très bien se passer ?
Ce que j'ai beaucoup aimé avec Matière Vivante, c'est un outil que j'ai appris qui est très chouette, justement dans les endroits où il n'y a pas forcément ces espaces et cette écoute, etc. Et en fait, c'est un signe pour justement convoquer ce qui me paraît quelque chose d'absolument assez essentiel dans toutes ces luttes-là, c'est le rôle d'allié. Donc par exemple, quand quelqu'un est mal à l'aise dans une danse, là, sa position, c'est que cette personne a la main gauche sur l'épaule de son meneur-meneuse et la main droite dans le dos. Et la personne qui mène ne voit pas cette main. Et de proposer de croiser les doigts dans le dos de cette personne pour signaler « je ne suis pas bien et je ne peux pas arrêter ». Et en fait, j'ai trouvé cet outil absolument génial. Et j'ai eu la grande chance d'aller au Grand Bal de l'Europe cet été. Et j'ai diffusé cette information et plein de gens ont trouvé ça génial. Et ça, par exemple, ça permet justement dans les structures où il n'y a pas, où ce n'est pas possible, qu'il y ait justement ce genre de collectif qui soit là pour faire cette prévention-là et accueillir tout ça, qu'au moins que les uns, les unes, les autres, on fasse attention aux uns, aux unes et aux autres.
La place de l'homme dans cette organisation en tant que personne qui peut protéger ou intervenir existe-t-elle ou alors il y a encore du travail
hein. Protéger. Protéger, c'est mignon de dire ça parce qu'en fait on a intérêt à se protéger nous-mêmes, entre nous un peu quand même, non?
Après, tous les alliés sont bons à prendre. Mais...
Oui, tous les alliés sont les bienvenus. Mais,
la question est, est-ce qu'il y a des hommes qui sont conscients de cette problématique et qui agissent s'il le faut ?
Moi, il s'avère que dans le bal folk, à part cette expérience-là malheureuse que j'ai racontée tout à l'heure, globalement, ça se passe bien et c'est un endroit où je rencontre énormément d'hommes qui sont bien avancées sur le chemin de la déconstruction, car la déconstruction n'est pas un état, mais un chemin, qu'on se le mette bien dans le crâne, et qui interrogent beaucoup, beaucoup de choses, et c'est très riche pour ça, et ça me fait beaucoup de bien, justement, de sociabiliser avec des hommes avec lesquels je suis en sécurité, qui ont déjà, et comme ils dansent, ils ont accès à tous ces débats-là et à toutes ces personnes-là. Et en plus, je vous parle même pas de la question queer et compagnie, du genre. Enfin, là, on est parce que dans les balles folk, ça interroge énormément tout ça. Et du coup, il y a des gens qui ont vraiment des réflexions puissantes, intéressantes, et beaucoup d'hommes. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette.
Et pour découvrir aussi vos prochaines animations de matière vivante, Manou, qu'est-ce qui est proposé ?
Alors, la prochaine, c'est au Bal des Paysannes à Marseille, le 8 octobre, où on fait un atelier en mixité de réflexion sur le sexisme. Et notre prochain stage long, du coup, de 6 jours, c'est du 10 au 15 février au Vielodon, qui est un endroit en Ardèche très joli par ailleurs. Et donc là, on fait du théâtre de l'opprimé, on danse, on parle de consentement et il y a des apports aussi théoriques.
Françoise Mar, Audrey Semion et Manou Benoît, je vous remercie toutes les trois d'être intervenues sur l'interview pour RDIWA et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci, merci.
Merci, belle soirée. Merci, bonne soirée.
Au revoir.
Merci de te déplacer.
Ça va, c'est agréable.